Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse consacré à la philosophie en ce dernier vendredi du mois. Comment trouver le bonheur par temps de crise? C'est notre thème ce matin. Chacun d'entre nous détient sa propre définition du bonheur. Est-ce l'un des synonymes de la joie, de la jouissance des plaisirs, de la satisfaction, de l'absence de douleur? Et d'ailleurs, faut-il le rechercher à tout prix, ce fameux bonheur? N'est-ce pas une source de malheur de vouloir le dénicher sur notre chemin de vie? La philosophe Marianne Chaillant répondra à ces quelques questions et partagera des clés pour être le moins malheureux possible. N'hésitez pas à poser vos questions et à réagir au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Aïdan Ndiaye.
Bonjour Ali.
Vous remplacez ce cher Thibaut de Saint-Maurice à l'isolement cette semaine. Quel est le menu de votre chronique philo?
Eh bien, je vais donc également parler du bonheur et me poser la question de savoir si le bonheur n'est pas un enjeu politique, en fait.
Bonjour Guy Metodicino.
Bonjour Ali.
Chaque semaine, on retrouve votre ami du vendredi. Qui mérite notre amitié cette semaine?
Alors écoutez quelques indices, il est carré, il est jaune, il a des trous comme du gruyère et des grands yeux bleus globuleux, et il est tout le temps content.
Réponse dans quelques minutes. Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
La seule chroniqueuse que je tutoie, ça demande express.
Parce que je suis la plus jeune.
Le programme de votre... C'est sympa pour vos amis.
Exactement. Merci Maya. J'énonce tout de suite.
Le programme de votre chronique sexe.
Je peux rendre tout le monde très malheureux. Non, c'est la chronique sexe. Moi, tu sais, je suis toujours très disciplinée. On parle de bonheur. Eh bien, très bien. On parle de bonheur sexuel, tout simplement.
Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction.
C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
Bonjour Marianne Chaillant. Vous êtes professeur de philosophie. Après des ouvrages de philo consacrés à Harry Potter, à Game of Thrones ou à Disney, vous publiez aux Équateurs Où donc est le bonheur? Le président de la République avait-il eu raison de nous promettre le retour des jours heureux? C'était l'année dernière, au mois d'avril. La déception était forcément au bout du chemin.
Oui, nécessairement. Mais il y avait une petite, peut-être si je peux me permettre, une petite erreur sur le concept de bonheur. En promettant le retour des jours heureux, je crois comprendre qu'il voulait dire qu'un jour, la souffrance que nous connaissions alors cesserait et nous reviendrions dans un état de plénitude, de satisfaction, qu'il appelait donc le bonheur. Si on se fait cette idée-là du bonheur, d'un état qui serait exempt de douleur et de souffrance, alors je crains que non seulement les jours heureux ne soient pas proches de nous, mais n'arrivent jamais, en fait.
Marianne Chaillant, nous reconnaissons le bonheur collectif au bruit qu'il a fait en claquant la porte juste au début de la crise sanitaire. Est-ce que la crise a bouleversé notre conception du bonheur? Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre « Comment oser parler de bonheur après ce que nous avons désormais vu et appris de nous, des autres et de la vie ?»
Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à rédiger ce livre, c'était au mois de juin. Ça fait très longtemps que je souhaite écrire sur ce thème. Et au moment où je me lance, je me dis quand même quel concours de circonstances. Je vais parler du bonheur dans des temps qui sont affreusement douloureux, ce qui m'a semblé être un paradoxe. Et puis après, je me suis dit, mais non, en vérité, ce n'est un paradoxe qu'en apparence, et selon précisément cette définition du bonheur comme état de joie pleine et entière, un bonheur B majuscule, et penser le bonheur par temps, par gros temps, par mauvais temps, je pense que c'est une bonne chose. C'est peut-être la bonne chose que pourrait nous permettre cette période terrible, que de réaliser que le bonheur, s'il existe, n'est pas exempt de la douleur et de la souffrance, et que donc, aussi dur que cela puisse paraître, nous pouvons être heureux, y compris en ce moment. Évidemment, cela impose de d'abord détruire le premier concept de bonheur que le président véhiculait dans ses propos, le détruire, regarder le réel en face, et c'est pas très drôle. Et puis enfin, peut-être trouver la force en soi d'aimer la vie pour ce qu'elle est.
Alors le bonheur, c'est une question qui occupe l'esprit des humains depuis de très longues années. Nous avons chacun une définition personnelle du bonheur. À l'origine, bonheur a un lien avec la bonne surprise, la joyeuse trouvaille. Au départ, le bonheur ne dépend pas de nous, mais de la bonne fortune.
Oui, c'est l'étymologie que je reprends dans le livre. Pour détruire cette idée que je trouve extrêmement toxique, délétère, selon laquelle quand on veut, on peut, Et ceux qui ne sont pas heureux, finalement, c'est un échec personnel de leur part. Et donc, je rappelle cette étymologie pour dire, oui, enfin bon, au départ, le bonheur, c'est quand même la bonne surprise, on n'y est pour rien. Et c'est simplement pour détruire cette idée-là, parce que je commence le livre en parlant de cette injonction au bonheur, cette tyrannie du bonheur, qui fait que, je ne sais pas si vous serez d'accord, Ali et vos auditeurs, mais on a beaucoup de mal à avouer qu'on n'est pas heureux. Et parce qu'on a l'impression que ne pas être heureux, ça veut dire qu'on a raté quelque chose, qu'on est responsable. Comme si le bonheur, premièrement, un, était possible, ce qui n'est pas du tout... on va voir ce que c'est possible. Et deux, il dépend de nous de l'atteindre, d'un certain effort de volonté. Et voilà, c'est pour ça que je rappelais cette étymologie.
Alors, quand vous étiez petite, votre grand-mère paternelle vous propose de remplir le fameux questionnaire de Proust. Et à la définition du bonheur, qu'aviez-vous répondu à votre grand-mère ?
Oui, j'avais répondu alors « aimer et être aimé ». Ce qui me paraît pas mal du tout.
C'est pas mal.
Ce qui est pas mal du tout. Mais ce qui m'a touchée, ce qui a fait de ce livre un livre si personnel pour moi, c'est que je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui j'ai 40 ans, j'avais 10 ans à l'époque. Est-ce que je serais pas encore en train de répondre à ma grand-mère et à cette question? Est-ce que je serais pas encore en train de chercher la réponse?
Et vous posez cette question à vos élèves de terminale. Quel est votre idéal terrestre?
Oui.
Vous la posez systématiquement, oui. Chaque année.
Oui, en ouverture du cours sur le bonheur. Et alors, ils sont plus drôles que moi pour certains. Certains me répondent de façon malicieuse, c'est quand la sonnerie retentit à la fin du cours. D'autres me disent, et c'est pas mal, c'est quand on retrouve ses deux chaussettes après une machine à laver, intéressant.
Je suis tellement d'accord.
Et d'autres, peut-être plus réalistes, disent, c'est quand rien ne va mal. Et puis enfin, et quand même, il faut le dire, l'immense majorité, hélas, reprend un concept un peu matérialiste du bonheur, un peu consensuel. Être heureux, c'est se marier, avoir deux enfants, un garçon, une fille, une maison, un chien, un chat, une voiture... Donc un bonheur, ce concept de bonheur-là.
Vous la posez cette question à vos élèves de terminale, Aïda Ndiaye ?
Alors moi je ne la pose pas directement comme ça, mais évidemment on en parle. Et c'est vrai que y a une difficulté qui est bien normale à distinguer ce qui relève du bonheur, du plaisir, de la joie, de la simple envie. C'est marrant, ils ont souvent effectivement cette idée de pouvoir s'acheter ce qu'ils veulent, de pouvoir manger ce qu'ils veulent aussi parfois. Mais cela dit, moi j'observe aussi un certain changement, je trouve, c'est-à-dire que la question du sens, la question des valeurs, dans le rapport au travail par exemple, la génération, alors peut-être des gens un petit peu plus âgés que nos élèves qui sont en terminale et qui ont ce mur des études, mais les jeunes actifs qui commencent à travailler articulent quand même mieux le sens, les valeurs et justement le travail stricto sensu et donnent moins d'importance à la rémunération, par exemple, qu'on a pu le faire, nous, à notre génération.
Guillemette Audicino.
Oui, je suis d'accord. En parlant à des jeunes gens, les amis de mes enfants, par exemple, et tout, c'est vrai qu'apparaît vraiment une dichotomie de plus en plus entre réussite sociale et bonheur. Il y a quelque chose en fait qui vraiment là en ce moment les obsède sur la fidélité à eux-mêmes. C'est-à-dire ils ont l'impression quand même qu'ils trouveront en tout cas une forme de bonheur en étant fidèles à une quête très profonde en fait.
Marianne Chaillant.
Oui, c'est vrai, ça me rappelle une scène que je raconte dans le livre parce que ce livre est plein aussi de ces expériences que j'ai le bonheur de vivre avec mes élèves et une élève qui disait je trouverai le bonheur quand je serai enfin devenue moi-même. Enfin devenue moi-même. Et on a fait un cours sur Sartre, que je lui ai rappelé à ce moment-là, parce que devenir soi-même, est-ce que c'est pas un peu la promesse aussi du développement personnel?
Non, j'ai pas dit ça.
Non, je sais, mais du coup, devenir soi-même, mais c'est terrible, lui ai-je répondu, parce que ça n'adviendra pas, cet état de plénitude, de clôture, de enfin voilà, je suis là, je suis devenu le propre de l'existant que nous sommes et d'être toujours en amont de soi, d'avoir toujours à bâtir sa propre définition. Et donc nous ne comblerons jamais ce manque à être que nous ressentons et que certains opposent au bonheur, ce sentiment d'incomplétude. Et justement dans le livre, je cherche à défendre cette thèse que l'incomplétude n'est pas le contraire du bonheur, mais ce par quoi peut jaillir le possible et la vie et probablement donc le bonheur consiste dans cette capacité à vivre pleinement.
Marianne Chaillant, pourquoi y a-t-il dans la recherche du bonheur une tension qui s'oppose au concept de bonheur même ? Vouloir être heureux serait paradoxalement le meilleur moyen de ne jamais le devenir ?
Oui, Parce que, regardez, tous les hommes recherchent le bonheur, nous dit Pascal, probablement dans cette salle, et nos auditeurs recherchent le bonheur. Mais si nous le recherchons, c'est donc que nous ne l'avons pas. Et si nous le recherchons, nous inquiétons. Vais-je le trouver ? Moins nous le trouvons, plus nous nous inquiétons. Et donc, cette recherche fait jaillir en nous une inquiétude, inquiétude grandissante, puisque nous n'atteignons pas, et par définition, nous n'atteindrons jamais cette complétude parfaitement imaginaire. Voilà. Et donc, la recherche du bonheur est le meilleur moyen d'être profondément malheureux, puisque nous sommes gagnés par cet état d'inquiétude qui s'oppose à la définition d'ataraxie, hein, du bonheur comme absence de troubles de l'âme et du corps. Et donc, plus on cherche, plus on s'inquiète, moins on est heureux.
Guillemette.
Bah, c'est la quête du Graal. Oui. C'est cette satanée quête du Graal.
Oui, c'est ça.
Quand on cherche le bonheur, Marianne Chaillant, on désire l'impossible. On veut la durée là où la vie n'est que passage. On demande l'éternité là où tout est éphémère.
Oui. Je cite dans le livre la chanson « Mon Dieu » d'Édith Piaf. Laissez-le-moi encore un peu, un jour, deux jours, dix jours. Qui d'entre nous n'a pas poussé ce cri, cette espérance de maintenir, de garder cet instant de plaisir, de joie que nous partagions? Et pour ceux d'entre nous qui avons poussé ce cri, nous savons que ce cri même est ce qui nous a fait déchoir de la joie que nous ressentions alors, parce qu'elle nous a fait réaliser qu'elle était passagère. Et donc vouloir aspirer à faire durer le plaisir, ce qui est le bonheur, hein, parce que le bonheur c'est un plaisir durable ou une joie durable, eh bien c'est le meilleur moyen d'être malheureux. Il faudrait, pour être moins malheureux, et peut-être pour être heureux, il y a une partie positive dans mon livre, hein, rassurant vos auditeurs, hein, mais pour être le moins malheureux possible, il faudrait non pas se raidir face à l'essence de la vie qui est passage, mais accepter ce tempo de l'existence, et se laisser dicter par lui un certain mode de vie, une certaine sagesse de vie.
Vous parliez de plaisir, le bonheur n'est pas réductible au plaisir, n'est pas réductible à la jouissance, n'est pas réductible à la joie. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, on distingue le plaisir. Le plaisir, c'est une satisfaction d'ordre physique. Par exemple, je vais avoir du plaisir en mangeant une pizza. C'est physique, c'est corporel et c'est éphémère. La joie, c'est, il y a déjà une dimension de spiritualité psychique.
De plénitude.
Oui, et c'est un état plus complet, mais c'est un état passager. Le bonheur, par opposition, c'est une idée que j'attaque, mais de grands philosophes peuvent la défendre, comme Kant, qui dit que le bonheur est un état de satisfaction de toutes nos inclinations, donc de tous nos désirs, en intensité. Il faudrait que nos désirs soient comblés à fond, en extension, tous nos désirs. Et en durée. Voilà. Donc le bonheur, c'est plus grand que le plaisir, c'est plus grand que la joie, en ce sens que c'est une complétude absolue. Enfin, une fois qu'on l'a défini comme ça, on se rend bien compte que c'est un concept totalement fou. Comment connaîtrions-nous un absolu qui ne serait pas soumis à la déréliction, à la perte? Et c'est... Pardon, oui.
Aidan Diaye, vous partagez cette idée?
Oui, bien sûr, et beaucoup de philosophes attaquent aussi précisément cette idée qu'on pourrait atteindre cet état de totale satisfaction, et chez Kant, précisément, le bonheur est un idéal de l'imagination, parce que défini comme ça, il est en effet impossible à atteindre. Après, moi, le renversement que j'opère quand je le traite avec mes élèves, c'est de leur demander, quand on dit être satisfait, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie obtenir satisfaction en prenant possession d'objets extérieurs à nous, que nous désirons et donc que nous essayons de nous approprier, ou est-ce que ça signifie se satisfaire, c'est-à-dire essayer cet apaisement, cette ataraxie dont parlait Marianne, de la trouver en soi, même si ça soulève d'autres problèmes, notamment dans cette confrontation à la nécessité. Mais je pense que dans un premier temps, il y a déjà en effet ce renversement à opérer pour se libérer de cette définition impossible à atteindre du bonheur, en effet.
Il y a un philosophe qui s'appelle John Stuart Mill qui dit cette phrase qui a l'air un peu méchante, mais qui permet, je crois, de cerner le bonheur par opposition à la satisfaction. C'est « mieux vaut être Socrate insatisfait qu'un porc satisfait ». C'est-à-dire que on peut oui ça c'est-à-dire que
on est tous d'accord, je pense, hein.
Ah oui, mais moi parfois j'en doute, parce que par exemple quand on regarde un chat qui dort sur un canapé, ça m'arrive d'envier sa quiétude, son absence de tourment. Et je me dis, comme ça doit être bon d'être un chat. Et le chat est satisfait, mais est-il pour autant heureux? le bonheur qui est le propre de l'homme ne réside donc pas dans cette plénitude du chat, mais dans cette conscience douloureuse, tragique, et donc il y a de la gravité, il y a du tragique dans le concept de bonheur.
Parfois, moi, j'ai envie la quiétude, de la satisfaction de la vache.
Mais pourquoi pas, Ali? Pourquoi pas aussi?
Mais elle est peut-être angoissée quand elle regarde passer les trains.
Et puis les chats, ils sont un peu nerveux des fois. Quand même.
Ali, et dans quelques instants, Marianne Chaillan, vous nous direz, avec ce bon vieux Schopenhauer, pourquoi tout bonheur est d'essence négative. Il est 10h22 et il est l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Audicino, qui mérite notre amitié cette semaine?
Alors, cher Ali, chers auditeurs, chères auditrices, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais quelque chose me chiffonne depuis quelque temps. Habituellement, quand je demande « ça va ?» à mes amis ou mes relations, ils me répondent « ça va ?» Parce que cette question rituelle, ce pacte social, n'ont jamais eu d'autre emploi que de générer cette réponse réflexe. Ça va. Mais depuis quelque temps, en fait, tous me répondent non. Ça ne va pas. Puis ils se mettent à raconter combien ils se sentent mal, combien ils n'arrivent plus à tout absorber dans ce monde qui se noie. Ils trouveraient sûrement bien infantile et ridicule de ma part que je leur présente l'ami d'aujourd'hui, mais tout de même, j'ai envie à chaque fois de leur présenter mon ami Bob l'éponge. Bob l'éponge carré. Le héros de la série télévisée d'animation, créée en 1999 par le biologiste et animateur Stephen Hillenburg, grâce à sa double admiration pour le capitaine Cousteau.
Commandant Cousteau.
Oui, commandant.
Vous le dégradez.
Oui, c'est... il doit y avoir un capitaine dans Bob l'éponge dans la série, c'est pour ça. Et Laurel et Hardy. Cette série régressive, certes, mais riche en candeur et en surréalisme, devenue un phénomène pop de société. Alors bon, Bob est une éponge de mer, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une éponge de cuisine jaune, avec des gros yeux bleus, deux dents écartées, une chemise blanche et une petite cravate rouge. Il vit avec son animal de compagnie, Gary, un escargot de mer qui miaule, Marianne, dans une maison en forme d'ananas au 124 rue des Conques, dans la ville sous-marine de Bikini Bottom, située sous l'atoll de Bikini. Alors, on aurait tendance à croire effectivement la théorie de certains fans, selon laquelle les personnages de la série sont le résultat des essais nucléaires qui eurent lieu sur l'atoll à la fin des années 40. Alors, Bob est employé au Crabe Croustillant, un restaurant de la ville. Il est l'employé du mois, quasiment tous les mois. Il rêve d'une promotion qu'il n'obtient jamais. Mais il absorbe toutes les désillusions. Il est tellement positif, Bob, et content tout le temps qu'il en agace son entourage, qui lui peut avoir un côté abrasif. Alors, suivant la maxime d'Aristote, si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, la méchanceté suffit à rendre malheureux. Bob est convaincu qu'il faut faire le bonheur des autres, y compris contre leur gré. Alors, même confronté à l'adversité et au cynisme, même trempé de larmes, il peut tout effacer.
Allez, ça suffit, les grandes eaux, faut arrêter de se lamenter. Oh, j'ai la solution, c'est très simple, j'arrête d'y penser. Eh, ça fonctionne, ça alors, c'est efficace, ça y est, ça me console. Je sais même plus pourquoi j'avais tant de chagrin.
Il n'est pas un peu bené, votre ami, Guillemette Audicino?
Bah, écoutez, Ali, il a la candeur d'un enfant. Et même le rapport de l'enfance avec le temps et l'oubli. Avec cette capacité magique d'oublier son chagrin à cause d'un papillon ou d'une bulle de savon. D'ailleurs, son activité préférée est de créer des bulles avec son ami Patrick, l'étoile de mer. Les enfants. Ces êtres qui sont des éponges. L'éponge, je vous le rappelle, est un être vivant, fixe, végétatif, collé au fond de la mer. Un animal filtreur, dont le corps est une sorte de mousse poreuse qui absorbe le milieu ambiant. Comme l'enfant, collé à nous, dépendant de nos humeurs, les filtrant aussi, mais dont les rêves et la capacité au bonheur risquent de s'assécher. Tant le milieu ambiant n'est qu'alerte sanitaire, pollution idéologique, concurrence, harcèlement. À l'école ou dans les hautes études, ils essuient les humiliations, pendant que certains veulent les gorger de fake news. Seront-ils capables, comme Bob, de passer l'éponge ? Alors heureusement, en lisant les livres de sciences naturelles, on apprend que nombre d'éponges résistent à l'acidification des océans, au réchauffement climatique, qu'elles peuvent se régénérer si elles sont fragmentées, qu'elles peuvent rester déshydratées plusieurs années et puis revivre si elles sont remises à l'eau. Alors même si nous avons le moral dans les chaussettes, sous l'eau ou à bikini bottom, c'est-à-dire dans le fond du slip, pensons à Bob, cette incarnation délirante et candide de la résilience, et hydratons régulièrement les espoirs de nos enfants pour que jamais ils ne jettent l'éponge.
Un mot, Marianne Chaillant, vous êtes une grande spécialiste de la pop philo.
Et Guillemette a réussi à me donner envie de découvrir Bob l'éponge, que je ne connaissais pas. Et je me dis, mais enfin, je suis passée à côté d'un modèle.
Je sens que notre ami...
Xavier Le Herpeur, clin d'œil.
Producteur de l'émission Une Heure en Série, qui porte des t-shirts Bob l'éponge, va se précipiter sur le podcast de votre chronique sur l'appli France Inter, ma chère Guillemette Odissino. L'émission a été préparée cette semaine par Alexia Rivière et Camille Pouc-Gélagui, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation était signée Claire Destacan, la programmation musicale Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, Anne Lorcoche, chez Sybille Clamence, et je salue la sculptrice Roselyne Granet, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui est venue nous rendre visite en studio.
Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer. Depuis j'ai oublié laquelle, sous
Carina, sous le soleil, exactement.
Oh, fais pas cette tête! Vous devriez être content!
Grand bien vous fasse!
Vous n'avez pas fait la danse du bonheur!
Le bonheur, on fait la danse du bonheur!
Plus de bonheur!
À lire EBI!
Allez, mieux que ça!
Le bonheur, on fait la danse du bonheur.
Sur France Inter.
10h31, comment trouver le bonheur par temps de crise? Et faut-il d'ailleurs le rechercher, ce fameux bonheur? Notre invitée, la philosophe Marianne Chaillan, répond à vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
Je passe souvent pour un écrivain du bonheur. Je sais très bien que le monde est triste, et difficile, et dur. Et en même temps, la vie est merveilleuse, la vie est belle, en effet. Même si vous êtes malade, même si vous n'avez pas de travail, même si vous avez des chagrins d'amour, soyez heureux. Le monde est beau. La mer, le ski, voyager, ne rien faire, tout ça est épatant. Et en même temps, quand vous naissez, vous signez une espèce de contrat tacite avec la mort.
Marianne Chaillan, je rappelle que vous publiez « Où donc est le bonheur ?» Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision du bonheur de l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson ?
Oui, ce que j'en comprends dans l'extrait que vous venez de diffuser, j'y souscris pleinement. C'est-à-dire que l'existence est faite d'un envers et d'un endroit, pour reprendre le titre d'un livre d'Albert Camus. Et il y a dans le concept de bonheur que je détruis au départ cette erreur selon laquelle il faudrait se libérer de la maladie, de la vieillesse, de l'angoisse, de la douleur et de la mort pour être heureux. Ce que nous dit Jean d'Ormesson, c'est que ça fait partie du contrat de la vie que de passer par ces expériences-là. Bien sûr, il y a aussi l'expérience de la joie, de la jouissance, du plaisir. Et alors, à quoi tient le bonheur ? Non pas au moment où nous serions délivrés des premières expériences, mais à cette capacité à se tenir face à notre vie dans toutes ses dimensions, et à l'accepter tout entière, sans rien vouloir en retrancher. Un peu, finalement, comme on se tiendrait à l'hôtel pour épouser quelqu'un, et en lui disant « je te prends pour le meilleur et pour le pire ». Cette capacité à aimer la vie, pour ce qu'elle est, sans se voiler la face, et elle est souffrance, et elle est douleur.
Ça, c'est l'une des grandes idées de Nietzsche, oui. Le grand oui à la vie.
Exactement.
Quelle que soit cette vie.
Oui, c'est exactement cela. Et pourtant, c'est extrêmement difficile. Nous sommes nombreux à vouloir rejeter de la vie un certain nombre d'expériences douloureuses. Et pourtant, ce n'est pas, et c'est très difficile, hein, mais ce n'est pas aimer la vie que de vouloir retrancher d'elle ces expériences. Le bonheur, s'il existe, ne réside pas du tout dans cette complétude illusoire, dans cet absolu, mais dans cette force. C'est pourquoi il n'y a aucun jugement si on n'y parvient pas, si on n'est pas heureux. Mon Dieu, comme cela demande de la force, d'aimer la vie pour ce qu'elle est.
Pensez-vous, comme Schopenhauer, que c'est une erreur de croire que nous existons pour être heureux? Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, né en 1788 et mort en 1860, son grand livre « Le monde comme volonté et comme représentation ».
Alors Schopenhauer, je le cite justement quand je cherche à déconstruire ce premier concept de bonheur illusoire, B majuscule, parce que ce que nous apprend Schopenhauer, il n'est pas drôle, hein, je préviens vos auditeurs, c'est que... les joies ne vont pas tenir leurs promesses, hein. Soit elles seront décevantes et de toute façon elles seront passagères. En revanche, nous connaîtrons tous une parfaite expérience de la douleur et de la souffrance, hein. Là, nos espérances ne seront jamais déçues. Voilà, pour Schopenhauer, nous naissons au milieu des larmes, le cours de notre existence est tragique et la fin plus encore. Voilà. Donc, pour Schopenhauer, vraiment la recherche du bonheur, il faut s'en défaire. Et ce on doit consacrer nos efforts, c'est à différer la nécessaire victoire du malheur.
Alors je cite Pascal qui va dans le même sens. La fin sera terrible, quoi qu'il ait pu se passer de joyeux avant. Tout cela n'est pas très réjouissant, Marianne Chaillan.
Non.
Mais alors que faire ?
c'est une très bonne question. Je rassure vos auditeurs, mon livre n'est pas, voilà, ne les escroque pas. Je dis où donc est le bonheur et on tient des propos atrocement déprimants.
Il est très lumineux, surtout à la fin.
Voilà, hein. il faut, je crois, passer par cette expérience de la lucidité pour atteindre le bonheur. Si on se voile la face, nous n'atteindrons pas le bonheur. Alors oui, la vie est souffrance. Oui, la vie est tragique. Oui, la vie sera douloureuse. Mais alors, que faire, Ali, exactement ? Eh bien, que faire ? Cesser de lui demander d'être ce qu'elle n'est pas. Voilà, cesser de lui demander de nous offrir pour toujours les joies que nous aurons la chance de connaître. Et l'aimer pour ce qu'elle est. C'est très difficile d'aimer quelqu'un, d'ailleurs, pour ce qu'il est. Il en va de même pour la vie. Aimons-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire aussi cela. Et c'est quand on parviendra à apposer ce grand oui face à la vie, et ce n'est pas chose aisée, que nous pourrons alors atteindre cet état de bonheur.
Comment surmonter trois obstacles au bonheur que vous citez dans votre livre, les autres, le monde et notre corps?
Oui.
Les autres, le monde, notre corps.
D'ailleurs, pourquoi ce sont des obstacles au bonheur?
Mais c'est une bonne question. Alors, c'est Freud qui dit que ce sont les trois portes d'entrée du malheur dans notre vie. J'entends déjà les objections de vos auditeurs. Ce Freud est sinistre. Enfin, les autres, c'est quand même par là que vient la jouissance aussi. Le corps aussi, enfin, quand même, c'est tout de même l'outil de la jouissance. Et le monde. Et Freud dit, oui, mais enfin, observons bien tout de même les autres. Ils nous décevront, ils nous trahiront. Et même s'ils ne nous déçoivent pas et ne nous trahissent pas, ils finiront par mourir. Donc, ceux à qui on s'attache nous blesseront d'une manière ou d'une autre. Le corps, support de la jouissance, est promis à la déchéance. C'est inévitable. Nous allons tous connaître et la souffrance, injustifiable, sans raison, sans pourquoi, la déchéance et la mort. Voilà. Donc pour Freud, qui n'est pas très rigolo non plus, mais qui est en même temps lucide, nous ferons cette expérience de la souffrance. Est-elle une objection au bonheur? Est-elle une objection définitive? On pourrait dire, voilà, la vie est terrible, c'est affreux, c'est une objection définitive, cessons d'espérer dans le bonheur. Non, on peut, je le crois, et Camus le défend dans un livre qui s'appelle Le mythe de Sisyphe, où il nous parle de ce héros Sisyphe qui roule son rocher tous les jours en haut d'une montagne, et quand le rocher arrive en haut, il dévale. Sisyphe est la métaphore de notre condition humaine. Et Camus nous dit, on peut imaginer Sisyphe heureux. Et il s'étonne, ah bon? Alors, dans ces conditions-là, oui, dans ces conditions-là, nous venons de décrire ensemble avec Freud, avec Schopenhauer, une vie extrêmement douloureuse, mais nous pouvons être heureux, oui, dans ces conditions-là.
Écoutons une note vocale déposée par Annabelle.
Pour moi, le bonheur, c'est ces étincelles de vie, de légèreté dans le quotidien. C'est quand, par exemple, je suis moi-même surprise d'éclater de rire pour une bêtise ou quand une pub à la con me décroche une larme ou même quand j'ai une crise d'éternuement à cause du sucre glace sur une gaufre. Enfin, toutes ces petites choses qui me font penser que la vie, c'est à la fois... La vie, elle est à la fois absurde et belle, en fait.
Marianne Chaillon.
Ce que dit votre auditrice, ça nous a tous fait sourire. D'ailleurs, ça nous a rappelé ces joies dont l'existence est pleine. Et on la remercie pour nous avoir fait ces réminiscences. Mais je crois qu'il s'agit plutôt de moments de joie ou de plaisir. Et non pas de moments de bonheur. Elle me fait penser à un personnage d'Antigone, d'Anoui, Créon, qui explique à Antigone, Antigone, le bonheur, tu vois, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, c'est un banc pour s'asseoir le soir quand on est fatigué, un outil qu'on tient bien dans sa main. Ce sont ces petits plaisirs de l'existence, cette première gorgée de bière.
De Philippe Delerme.
Ce sont des plaisirs et c'est merveille que de les expérimenter. Le bonheur, du moins, c'est ainsi que je le comprends, c'est l'assentiment, l'acceptation à l'ensemble, à l'entièreté des expériences possibles que nous réserve la vie.
Est-ce que la conscience de la brièveté de la vie peut nous aider à être heureux? Pourquoi est-il important de vivre en pensant à notre finitude? Je crois que dans votre salle de classe, vous avez un squelette en plastique pour rappeler à vos élèves de terminale la finitude. C'est un peu sinistre.
Je croyais que vous alliez dire, Ali, qu'elle a une pancarte, nous allons tous mourir, quand même pas, non?
Ben, c'est un peu l'idée, hein, le squelette, c'est pour leur rappeler, c'est exactement ça, c'est pour leur rappeler... que de toute façon, on chemine tous vers là et qu'il faut, au regard de cette mort qui vient, au regard de cette finitude, hiérarchiser l'importance des choses qui nous frappent. Voilà. Oui, vous avez raison. La brièveté de la vie, la compréhension de la brièveté de la vie, le savoir que nous allons finir, nous donne de bonnes raisons de commencer enfin. Combien d'entre nous diffère d'exister pleinement, se contente de vivre, c'est-à-dire d'être là et de suivre un chemin déjà tracé par avance. Parce que c'est confortable, parce que le rail est déjà tracé, on n'a qu'à le suivre. Mais dans ce cas-là, on arrivera peut-être, comme cette héroïne de Camus dont je parle, à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Dans le livre, je cite Le cerf des poètes disparu et ce poème de Whitman où il nous dit, eh bien, être heureux, hein, c'est s'emparer de notre stylo et écrire notre propre rime, c'est-à-dire ne pas se contenter de vivre, mais exister.
Aïdan Diaye.
Oui, et je pense que la difficulté de cet effort en fait qu'il faut faire pour en effet, comme le dit Marianne, exister. Et la question que moi je me pose souvent sur ces sujets-là, c'est quel est le coût mental en fait. D'une part, la question de il me semble que quand même toutes les vies ne sont pas égales et que on peut pas non plus penser la vie comme un absolu. Je pensais aux travaux de Didier Fassin sur les inégalités des vies en fait et la nécessité à laquelle nous devons nous confronter pour accéder au bonheur, elle peut aussi écraser et produire ce que Simone Veil appelle le malheur, c'est-à-dire cet état justement dont il est impossible de sortir. Et Simone Veil d'ailleurs aussi parle de cette de l'inertie en fait du malheureux qui arrive presque à se satisfaire de cet état. Ce dont parle très bien d'ailleurs aussi Ruhen Ogyen. Et je me souviens par exemple que au moment du confinement, quand on a annoncé qu'on sortait du confinement, moi j'ai eu presque un réflexe de me dire ah non en fait bon bah maintenant qu'on est là, on n'a qu'à rester là, continuons comme ça. Donc il y a cette inertie de la pensée qui fait que ça coûte en fait de produire l'effort pour changer les choses en fait.
Aïda Ndiaye citait le philosophe Ruhen Ogyen qui est un modèle pour vous, on peut le dire.
Que j'ai eu le bonheur de rencontrer après l'avoir lu. Donc je rencontrais pour moi, c'était sur le même plan que Nietzsche. Quand je l'ai rencontré en vrai, c'était en vrai. et il m'a fait le bonheur bien de parler avec moi et même de m'offrir son amitié. Et effectivement, sa philosophie, pour le coup, au-delà de l'homme qui vivait à la hauteur de sa philosophie, et ça c'est merveilleux, quelqu'un qui vit à la hauteur de ses pensées, sa philosophie est extrêmement libératrice et j'invite tous vos auditeurs à la lire. Elle fait tellement de bien. Elle nous libère de certaines valeurs morales qui étouffent la vie désirante, qui étouffent les individus que nous sommes. Donc c'est Ruhen Ogyen, c'est sûr, c'est un...
Et on peut lire avec profit, notamment, mais Mille et une nuits, livre de poche.
Oui, alors ce livre-là est très douloureux, puisque c'est son dernier livre. Comme Sherazade, il parlait non pas à Shahriar pour reculer l'échéance, mais à son cancer... du pancréas, mais pour découvrir sa philosophie libératrice, j'invite vos auditeurs à lire La vie, la mort, l'état. Le livre n'a peut-être le titre, mais c'est merveilleux. Et il développe une philosophie qu'on appelle minimaliste sur le plan moral, qui consiste à dire, que on ne peut pas se faire de mal à soi-même, et ce que deux adultes consentants se font entre eux n'a absolument aucun rapport avec la morale. Donc, quand on a deux adultes consentants ou quand on se fait quelque chose à soi-même, ce ne relève pas du tout du champ de la morale.
Et de façon plus accessible, on peut lire l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. C'est au livre de poche. Tiens, je vous propose d'écouter un extrait du film The Hours de Stephen Daldry.
Cher Léonard, regardez la vie en face. Toujours. Regarder la vie en face et la connaître pour ce qu'elle est. Enfin, la connaître, l'aimer pour ce qu'elle est et puis s'en défaire.
Marianne Chaillant, à la fin de votre livre, vous faites un éloge du film The Hours, Les Heures en français, adapté d'un roman de Michael Cunningham. Pourquoi ce film a-t-il été important pour vous et pourquoi est-il une sorte de condensé de votre philosophie du bonheur?
Parce que ce livre présente un triptyque, un portrait de trois femmes. Au centre, on a une femme qui a tout pour être heureuse. Elle a ce concept, elle réalise ce concept de bonheur dont je parlais tout à l'heure, un mari qui l'aime, un enfant, un autre enfant à venir, une maison, etc. Et elle n'est pas heureuse, pas du tout. En revanche, elle est encadrée par deux autres portraits de femmes dont la vie est cabossée, dont la vie est imparfaite. L'une a passé sa vie à aimer un homme homosexuel qui n'a pas pu lui rendre cet amour en retour. L'autre, qui incarne Virginia Woolf, a vécu cette vie d'une créatrice tourmentée au point qu'elle doit mettre fin à ses jours dans le film. Et pourtant, par un paradoxe extraordinaire, ces deux femmes-là, on le voit, on le sent, sont heureuses. Et donc le bonheur n'a rien à voir avec la possession, la complétude. Et on peut être heureux dans l'incomplétude. Le film répète plusieurs fois cette phrase que Virginia Woolf a eue dans sa lettre de suicide. C'est quand même extraordinaire. Elle écrit dans sa lettre de suicide à son mari « Je ne pense pas que deux personnes aient pu être plus heureuses que nous l'avons été ». Elle cite le bonheur au moment même où elle met fin à ses jours. Et là, elle nous invite à réfléchir à ce que c'est le bonheur. Et donc, on est heureux, non pas du tout dans cette vie qu'incarne le personnage au milieu de ce triptyque. Hein. Et elle nous dit, Virginia Woolf, c'est l'extrait que vous passiez, hein. On ne trouve pas la paix en évitant la vie, il faut regarder la vie en face, toujours la regarder en face, et il faut l'aimer pour ce qu'elle est. Et puis, il faut accepter un jour que de la laisser, de la poser.
Vous voulez être heureux, vivez vraiment, c'est ça la conclusion de votre livre.
Oui, vous voulez être heureux, aimez la vie pour ce qu'elle est, pour le meilleur comme pour le pire. Comprenez qu'il n'y a pas d'envers sans endroit. Osez le péril qui sauve. Connaissez votre indépassable incomplétude et n'y voyez pas une objection au bonheur. Trouvez-y le don merveilleux d'impossible, sans cesse renouvelé. Écrivez, emparez-vous du stylo, raturez, déchirez la page, reprenez. Et puis acceptez qu'un jour le livre s'achève.
Guillemette Odissino.
Ah bah écoutez, je vais pas faire de commentaire à cette conclusion magnifique, sauf à inviter effectivement les auditeurs et les auditrices à regarder The Hours. Je suis d'accord, c'est un concentré de vie et de justement de bonheur qui n'est pas celui qu'on pense et qui est peut-être encore plus beau que ça.
Allez, il est déjà l'heure de retrouver la chronique philo d'Aïda Ndiaye. Ce bon vieux Thibaut de Samory s'applique sur lui-même sa chronique consacrée la semaine dernière à l'isolement.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Et Aïda Ndiaye, vous vous intéressez ce matin au bonheur, au travail.
Eh oui. Est-ce que vous savez d'ailleurs ce que c'est qu'un happiness manager?
Non, il n'y en a pas à France Inter.
Non, il n'y en a pas à France Inter, bizarre. Alors, un happiness manager, en bon français, c'est le responsable du bonheur dans une entreprise. Ça a eu le vent en poupe à la fin des années 2000, c'est-à-dire à peu près quand on a commencé à se dire que c'était pas totalement absurde de se préoccuper du bonheur des salariés. Pour des raisons, je vous rassure, qui n'ont absolument rien d'altruiste, on est simplement plus efficace si on n'est pas totalement au bout de sa vie au bureau. Bon, alors, après tout, pourquoi pas? Avant de critiquer, voyons ce que ça peut donner, le bonheur au travail. Eh bien, ça donne ça.
Et pour ta petite commission?
Je l'ai faite.
Ta petite commission?
Ta REM, ce serait quoi?
Ma REM?
Ta rémunération. Ici, c'est chacun qui fixe son propre salaire, en fonction du travail que tu peux fournir. Et c'est pareil pour les congés, tu les fixes par rapport aux missions que tu as pris en charge. Voilà.
Je sais même pas pourquoi j'ai été engagé, ni par qui exactement, mais on m'a dit que j'allais faire du consulting process. Et figurez-vous que je vais fixer moi-même mon salaire. Oula. On a joué au ping-pong, on a mangé des bonbons. Oula.
Alors c'est un extrait du film Les deux Alfred de Bruno Podalydès, sorti en 2020. Dans ce film, Alexandre, c'est Denis Podalydès qu'on vient d'entendre, chômeur en fin de droit, trouve un poste dans ce qui semble bien être une entreprise de rêve, comme vous l'avez entendu, fixer sa rémunération et manger des bons becs, franchement, que demander de plus?
Alors pourtant, certains d'entre nous, on peut imaginer que le travail est le dernier endroit où chercher notre bonheur. Quel rapport, Aïda, entre le bonheur et le travail?
Mais oui, est-ce que je serais pas là en train de confondre le bien-être et le bonheur? Parce que si le bien-être au travail est une question politique et sociale, le bonheur, lui, semble relever de la sphère individuelle. Et pourtant, si le bonheur était un sujet vraiment politique, et si, en en faisant une question privée, on ratait notre cible? Alors, c'est ce que montre très bien le film, et, dans un autre style, le livre de la sociologue Eva Illouz et du psychologue Edgar Cabanas. Le livre s'appelle « Apicratie » et il est paru en 2018. Leur thèse, c'est que, en fait, cantonner le bonheur à la sphère privée et psychologique, c'est se détourner des vrais enjeux de société. Car penser que pour être heureux, il suffit de savoir contrôler nos désirs et pensées toxiques, bref, penser que chacun et chacune pourrait construire, apprendre, voire acheter son bonheur, eh bien, c'est s'empêcher de voir ce qui, dans l'organisation sociale, joue sur la possibilité même de notre bonheur, et notamment au travail que nous répétons quotidiennement. Dans Les deux Alfred, on voit bien comment l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est-à-dire la question fondamentale du temps, pèse sur les personnages. Parce que oui, petit détail, dans cette entreprise apparemment idéale, la philosophie c'est no kids.
Pas d'enfants.
Donc pas d'enfants. Tous les personnages jonglent pour s'occuper de leurs enfants tout en restant disponibles H24 dans le lexique de l'entreprise. Alors on peut penser, par exemple, à la question bien concrète du congé paternité. Équilibrer la charge parentale pour les femmes au sein d'un couple, c'est pas juste savoir comment parler gentiment à son mec, ça dépend aussi du temps dont notre conjoint pourra disposer pour être présent dès la naissance. Ça peut être aussi la question plus globale, du temps de travail. Par exemple, comment est-ce que je peux m'engager dans une association si je suis soumise à des horaires harassants? Comment est-ce que je peux prendre soin de moi, des autres, de la famille, des personnes âgées, puisque c'est d'actualité, si nous n'avons aucun temps ni aucune énergie pour cela? Et cette question-là, elle est bien politique et on ne peut pas s'en saisir, en fait, si nous cantonnons le bonheur à la sphère privée. Alors évidemment, il faut penser comment faire face aux souffrances de la vie, mais n'oublions pas pour autant que la santé, la maladie physique et mentale, la fatigue, le succès ou l'échec dépendent aussi de l'organisation sociale du travail et déterminent en fait les efforts que notre volonté est capable de produire et de soutenir. Et essayons peut-être de construire ensemble le cadre et le lieu commun dans lequel chacun et chacune pourront être heureux, E-R-E, comme dirait Roger Rabbit.
Petit commentaire, Marianne Chaillant.
Oui, je me demandais le rapport entre la politique et enfin, si le bonheur pouvait relever de la responsabilité du politique. Et je me disais, en première remarque, que moi, je me méfierais d'un régime qui prétendrait donner le bonheur à ses citoyens et le définir en tout cas, et le définir pour eux.
Relisons 1984 de George Orwell. La chronique philo d'Aïda Ndiaye à partager sur l'appli France Inter et dans quelques temps on pourra retrouver un podcast sur France Culture, c'est ça?
Oui, une série de pourquoi du comment en vidéo et en podcast.
Dans quelques temps. Dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette.
C'était pas très aujourd'hui.
Et on écoute Adèle, Oh My God.
I ain't got too much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fire. Love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. I know that it's wrong, but I want to have fun.
Interpréter Oh My God.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et il est l'heure de retrouver la chronique sexe de Maya Mazorette. On reste dans la thématique, Maya. Tu vas nous parler de bonheur sexuel.
Et oui, parce que souvent, je vous parle dans mes chroniques des grandes enquêtes de satisfaction menées sur la population française. En France, les deux tiers des femmes, les trois quarts des hommes sont satisfaits de leur vie sexuelle. Est-ce que ça veut dire pour autant que les sondés nagent dans l'allégresse et la béatitude orgasmique? Eh ben, en fait, on n'en sait rien. Parce que même s'il existait un barème officiel du bonheur sexuel, on serait un fichu de l'appliquer à tout le monde. Pour être sexuellement heureux, certaines personnes ont besoin de routine, mais d'autres ont besoin de se mettre en danger. Certaines personnes rêvent qu'on les domine et d'autres fantasment sur Bob l'éponge.
Alors, tu es en train de nous expliquer... C'est une drôle d'image que j'ai en tête là. Tu es en train de nous expliquer, ma chère Maya, que chacun voit midi à sa porte.
Ouais, super. En sexualité, chacun fait ce qu'il veut tant que tout le monde est content. On a entendu cette phrase 10 000 fois. Elle veut rien dire. C'est une super manière d'esquiver la conversation. Et franchement, c'est pas avec ça qu'on va attraper le prix Nobel de philo. Car en sexe, justement, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Nos préférences sexuelles sont subtiles et individuelles et contradictoires. Et elles se heurtent aux préférences sexuelles des partenaires. Et en fait, c'est galère. D'ailleurs, rien que pour trouver ses préférences sexuelles, c'est compliqué. Parce qu'avant d'entendre sa petite voix intérieure, mettons la petite voix de son clitoris, il faut se débarrasser de tout le bruit des attentes sociales et des représentations. Et ça, en fait, c'est super difficile. Parce que si vous regardez des films ou des séries, le bonheur sexuel est toujours représenté d'une seule manière. Fréquence, plus complicité, plus orgasme. Le couple, sexuellement heureux dans les films, fait l'amour dès qu'il a 4 secondes de liberté, de préférence dans des lieux super inconfortables, genre des sièges de voiture ou des armoires normandes. Les amants forniquent...
Debout.
Toujours, ouais, exactement. Debout, en secouant leurs cheveux. Apparemment, tout leur corps hétérogène, même les coudes, même à 4h du même matin, même après avoir descendu 8 shots de vodka. Il n'y a jamais rien à négocier. Les hommes font tout et ils n'ont pas de prostate. Les femmes ne font rien, elles n'ont pas de clitoris parce que ça sert à rien. Et quand l'orgasme est arrivé, parce qu'il arrive toujours, 12 fois pour les femmes avec des petits cris, une fois pour les hommes avec un soupir, et bah, les amants rigolent et secouent à nouveau leurs cheveux. Et en voyant ça, nous autres humains faillibles, avec nos cheveux pas coiffés et nos prostates, on se dit qu'il nous faudrait peut-être un plan B.
Et ton plan B s'appelle Hartmut Rosa.
Exactement, philosophe contemporain allemand, son dernier bouquin traduit en français s'appelle Résonance. Hartmut Rosa propose une piste concrète de bonheur, dont la sexualité pourrait être un modèle ou au moins un chouette terrain de jeu. Pour lui, le bonheur n'existe que quand nous entrons dans une relation de résonance avec notre environnement, comme quand on caresse un chat, comme tout à l'heure, ou qu'on regarde une œuvre d'art, ou qu'on fait une belle rencontre, il y a un dialogue qui s'opère et on a l'impression de trouver un peu sa place dans le monde. Hartmut Rosa oppose ce dialogue aux relations d'aliénation et d'objectification qui nous renvoient à notre solitude. Quelle que soit la sexualité qu'on choisit, il faudra donc toujours se demander si le rapport érotique nous fait vibrer, sachant que le dialogue, c'est pas juste être deux, on peut être dans une forme de transcendance et de découverte pendant des plaisirs solitaires, tandis qu'on peut être chosifié et réduit au silence par des partenaires en chair et en os. Il faudrait donc développer notre sensibilité et développer un rapport érotique envers le monde entier. Pour y arriver, Hartmut Rosa nous invite à cesser de confondre une vie réussie et une vie agréable. C'est pas parce que ça fait du bien que ça nous rend heureux, c'est pas parce qu'on a des orgasmes qu'on jouit. Ce week-end, je vous souhaite de résonner très fort. Et si vous voulez secouer les cheveux, et ben vous pouvez aussi.
Merci beaucoup Maya Mazorette. Une chronique à podcaster sur l'appli et le site de France Inter. Merci beaucoup Marianne Chaillant d'être venue ce matin dans Grand Main vous fasse. Je recommande vraiment Où donc est le bonheur. Où donc est le bonheur, c'est publié aux Équateurs. Merci beaucoup Aïda et Guillemette. Lundi, nous attendons toutes vos questions sur les différents types de migraines et sur les maux de tête. Et on attend vos questions dès maintenant sur l'appli France Inter.